avec nous, Boudaldi, Ayoub Marceau, Alexandre Cominec, Daniel Morin,
coucou,
Tanguy Bassureau et notre invité Olivier Marchal.
Oh là 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 là, Marchal,
la classe. Olivier vient pour
Belle Deschamps.
Nous présenter. Belle Deschamps,
je
la
veux bien, je trouve.
D'accord, ok, bah, tu lui diras en face. Hein.
Pour
Overdose, ça sera à partir de vendredi en 8, on dit ça, non, le 4 novembre.
C'est ça.
Non, plus que ça même, je dis bêtise. Non, ouais, c'est ça.
Ça sort le même jour que l'album de Garou qui fait des reprises de Joe Dassin.
Très bien, moi,
t'as
en tout cas, ça sort sur Amazon Prime Video, avec Sophia et Saïdi, foutez-vous de moi. Et donc, on va parler avec lui de ce film. C'est un long métrage pour Amazon, c'est pas une série, c'est un long métrage extrêmement impressionnant, choquant d'ailleurs.
Quand tu te régales,
moi, qu'on peut dire, c'est qu'il y a des cascades et que, mais on sent le vrai.
Je l'ai vu avec mes enfants, on s'est régalé.
Mais non, c'est impossible.
T'as pas d'enfants.
C'est impossible. C'est impossible.
Je vous ai acheté.
Blind test. Qu'est-ce qu'il y a, Alexandre? T'es pas prêt. Je sens pour le blind test. Non, non, non.
Si,
qu'est-ce qu'il y a comme une
action? Tête... Oh, c'était des petits problèmes techniques.
T'as la tête du mec qui est pas prêt. T'as pas le son qui.
Ouais, y a pas le son là.
Ah, il y a pas le son.
Dans... Pour l'inviter.
Y a pas le son dans les enceintes. Voilà.
Parce que je me préoccupe des autres.
T'as raison. Mais t'as raison. Ça s'appelle le respect.
Je fais ce que je veux.
Mais, oh, mais comment tu parles?
Dis donc.
Sois
pas Alors, mets ton casque. Voilà, il a mis son casque.
Déjà, regarde Amazon et
voilà. Il est fou, lui, hein. T'es beaucoup trop jeune.
Bah oui, je suis fou.
Qui chante ça?
Daniel.
C'est top.
Clapton.
Ouais.
Cocaine.
Ah non, c'est pas Clapton.
Ah.
C'est pas Clapton.
C'est pas Cocaine.
Si.
Mais c'est pas Clapton.
C'est pas Cocaine.
Bah c'est...
Vas-y, c'est pas Clapton. Je demande qui chante.
C'est pas Joe Cocker.
Bah non.
Non.
C'est alors... Non.
C'est la version... Je vous ai dit,
c'est la version...
C'est la version originale.
Non.
Ah oui, ça va être très très long alors, ok, ouais, d'accord. Ouais. Bon, allez, bonne réponse pour Daniel, c'est Gigi Cage.
Ah ouais. Ça aurait pu être long, ouais.
Ça va être très long, je pensais. Et ça
Daniel.
Oui.
Sex and Drug and Rock and Roll.
Qui chante,
Ken Jury.
Oui.
Sex and
Drug and Rock and Roll. Pim, 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 pim,
pim, pim. Sex and Drugs and Rock and Roll. Et là, qui a pas mis un point sur la drogue, je comprends plus là. Je comprends plus là. Là, je suis comme Cominec, j'ai plus le son là. La drogue technique. Hein. Wow. Moi, je m'en vais, je vais regarder Amazon.
Arrêtez, il y a des gens qui m'écrivent pour me proposer de la drogue.
Bah, c'est profite.
Sur moi, je sous-traite.
Mais, la vitesse à laquelle t'as dit c'est bien, mais c'est honteux.
Ah ouais, les yeux sont ouverts. Tu m'as dilaté les pupilles.
Oh, les pupilles.
Ah, les narines.
Tu m'as dilaté les pupilles.
Ah, je veux pas savoir.
Qui chante ça?
Daniel. Les Clash.
Les Stones.
Je vais pas mettre un point de façon sur le principe.
Pour les connaisseurs comme Alexandre Cominec, Brown Sugar, c'est la drogue.
Ça c'est pas, j'en suis pas encore là.
Je suis pas sucre canne.
Non, c'est le sucre roux.
Sucre canne,
ouais.
Sucre roux.
Alors ça c'est.
Bon, j'ai marqué 3 points, ça veut dire que je vais me faire avoir. Daniel.
Oui.
Frank Swift.
Non. Le père de Taylor.
Alexandre.
Ouais.
Jossman.
Non.
Jospin.
Ayoub, t'as le droit de jouer, hein, tu sais.
Moi je danse. Ah! C'est, comment il s'appelle?
C'est ça que je te demande.
C'est le but, hein. Oh là là, il est lent.
J'adore.
Oh, Alex, c'est pas possible!
Alex se retourne vers Ayoub.
Mais parce que c'est sûr,
mais c'est durable, écoute. Habillé comme t'es avec ta casquette, tu vas savoir, toi.
Toi qui es tout en blanc pour les miettes.
Attends.
Oh non, de Dieu, Belle Deschamps vient d'entrer.
Non, vous l'avez pas?
La voix.
Passe-moi, bah, je sais pas, NTM.
Non, c'est rappeur, oui.
C'est pas. Non, c'est pas Roméo, non, c'est
si,
pas Roméo
et Lise. C'est ça.
Voilà,
ouais, c'est ça, c'est qu'on n'entendait pas sa voix en fait.
Parce que c'était pas.
Alors, je rassure tout le monde, hein, bébé aime la drogue. La suite des paroles, c'est de la merde. Mais le titre, c'est bébé aime la drogue. Quand même, parce que le truc. Hyper gênant. Qui chante ça?
Tu sais, j'écoute pas ça, moi. Mon bébé prend de la drogue.
Qui chante ça?
Laurie.
Non, mais il y a une femme.
Ah. Alexandre, Jenny Joplin.
Patti Smith.
Patti Smith? C'est qui Patti Smith?
Patti Smith.
chanteuse allemande.
Paddy
Schmidt. Paddy Schmidt.
Je croûte.
Paddy Schmidt.
Warum?
Oh, bon.
Oh. Daniel. Velvet.
Héroïne du Velvet Underground.
Ah ouais, mais t'as pas donné ton prénom.
Oui. Tanguy.
Bien joué, le Velvet Underground avec Nico.
Nico.
C'est pour ça que j'ai dit que ça
Nico.
Ah
ouais. Nico de Marron.
Eh, Nico, non, c'est Tim.
Nico Tim.
Qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Passe le ouange.
Ouais, yeah. C'est un thème.
Ah. Attention, tout se joue maintenant. Tu peux rappeler la victoire d'un coup d'un seul, hein, Tanguy. C'est le bon coup.
Je sais même pas quel est le thème.
Ah, mais c'est la drogue.
C'est la drogue.
Mais Ilan n'a toujours pas marqué. Hein.
Alexandre, The Lord.
Et je vais vous aider. Non, je vais vous aider. Le titre, c'est carrément Overdose.
Ah.
On peut pas faire plus proche du titre du film de Olivier Marshall.
Overdose.
Jimi Hendrix.
Non.
Non.
Ace Days.
Non.
The White Stripes.
Pas ACDC.
Pardon.
Pas ACDC.
Mais oui.
Ace Days.
Oh non. Ça, je l'ai pas dit, quel
débile! Voilà. Oh. Number one sur la drogue!
Oh. Carrément!
C'est parti pour la drogue!
C'est bien ça!
Le cartel Morin l'a remporté!
Ah, ouais. Le cartel
Morin! Bravo Daniel! On va accueillir Olivier Marshall!
Ouais! Oh, c'est super! Bon, c'est super!
Bah, les gars, cette voix!
Ça va.
Belle Deschamps, tu l'appelles.
Oui, Belle Deschamps.
Sur Amazon.
Amazon.
Prime Vidéo, le 4 novembre prochain. Donc, un film avec Sofia et Saïdi, Cool Chen, Francis Renaud, qu'on voit pas assez, si je peux me permettre, hein, monsieur le réalisateur. Assad Bouab, qui est également dans la série 10%, me semble-t-il.
Oui, complètement.
C'est ça. Simon Abkarian, Nicolas Cazalé, Nassim Liassi Ahmed, Moussa Mansali, Kenza Fortas et Zoé Marshall.
Oui.
N'avez pas honte de faire abus de biens social et faire travailler la famille comme ça.
Elle n'a pas couché, hein, non, bien
là.
C'est la seule qui n'a pas couché. C'est la seule qui n'a pas couché.
C'est ça. Okay.
Bonne nouvelle. Ah bah c'est sur Amazon. Hein.
Bonne nouvelle pour Kouchen. On va tout de suite évidemment s'intéresser à Olivier Marshall et à son film. Et d'abord, voici Alexandre Cominet.
Allez.
Alexandre, avez-vous compris pourquoi Olivier Marshall était là aujourd'hui?
Bah, j'ai compris, Nagui. Oui, j'ai compris. Bah, dès que ça parle de drogue, on appelle Cominec, hein, c'est ça. Bah, moi, ça me va, hein. Franchement, je suis hyper content. Je suis méga fan des films de Monsieur Marshall. 36 Quai des Orfèvres, Les Lyonnais, vraiment, c'est dans mes films préf. Et là, Overdose, j'ai adoré. De toute façon, moi, dès que ça parle de drogue, de Go Fast, voilà. Hein, je me sens concerné, en fait. Pas parce que je suis un gangster, hein, non.
Non, parce que
moi, je suis le bouffon qui consomme. Non, mais j'aime ces films, justement, Nagui, parce que ça me fait du bien. Tu vois, quand je vois tout le mal que les bandits se donnent pour nous ramener de la drogue, je me dis, c'est la moindre des choses d'en prendre. Tu vois, je me dis, il y a plein des petits enfants en Afrique qui rêveraient d'en avoir, donc tu finis ton assiette, Alexandre.
Oh non, il y a le bruitage avec.
Bref, dans Overdose, on a qui? Kenza Fortas, Sofia Issaidi, Nassim Lies, Assa Bouab.
Oh,
allez, encore un peu Olivier, et vous leur faites Ali Baba et les 40 voleurs. J'avoue, il n'y a pas que des Arabes, un petit touche latino. Moi, j'étais très content de retrouver Alberto Amann, qui jouait Pacho Herrera dans Narcos.
Ouais.
Donc voilà, t'as vu le casting, tu sens que ça va pas être un huis clos sur une bande d'amis qui passent leurs vacances dans les Landes, quand soudain, un terrible secret éclate. Non, on est sur du Marshall, hein, donc je l'ai dit, il y a du go-fast. Pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est un go-fast, t'as un arabe dans une berline allemande. En gros, un go-fast, c'est un Uber qui va plus vite et qui transporte de meilleurs bonbons. Voilà, hein. Non mais alors, je précise, c'est pas forcément un arabe qui conduit. C'est ça qui est beau. Le banditisme n'a pas de couleur. Voilà. Hein, par contre, c'est pas les films les plus inclusifs du monde. Hein. Après, c'est normal, il faut que ça soit réaliste. Hein. Et Monsieur Marshall est inspecteur de police, donc il sait de quoi il parle. Hein. Après, on va quand même pas commencer à être trop inclusif dans des films de gangsters. Enfin, quand les flics font des descentes dans les cités, ils coursent rarement des trisomiques. On est d'accord.
Arrête.
C'est vrai ou pas?
Oui, ouais.
Et je suis désolé, moi,
dans le Go Fast, à la place de Nassim Liesse, tu me fous Bilal Hassani. Bah, j'y crois plus vraiment. Non, mais j'y crois plus vraiment. Même si Priscilla, folle du désert, est un film super. Hein. Bah, vraiment. Enfin, tu connais la différence entre un hétéro et un gay, d'ailleurs. Hein, c'est qu'il y en a un qui fait youhou quand il imite l'autre. Voilà. Mais vous savez quoi? Il y a peut-être un truc à faire, d'ailleurs, justement, monsieur Marshall, aujourd'hui. Genre le film du gangster du futur, tu vois. Mais un vrai truc de bonhomme, pas comme Drag Race. Ouais, parce que Drag Race, j'ai regardé, eh ben j'ai pas vu une seule course de bagnole. Bref, on en reparle après. Bonne émission, tout le monde.
Merci.
Au moins, tu prouves que tu as bien vu le film. C'est déjà ça.
Et que t'as bien vu Drag Race aussi.
Et j'ai regardé, bien sûr, j'ai tout regardé.
On adore Paloma.
Un film totalement dingue, Olivier Marshall, que vous réalisez pour Amazon Prime Video. Totalement dingue. Et on a le sentiment que cette course-poursuite entre les dealers, les distributeurs, le banditisme, différentes catégories d'ailleurs de policiers, on a l'impression que c'est presque du reportage. C'est-à-dire que tout est extrêmement réaliste. Très violent, quand même.
Oui.
Non, très violent.
Non,
c'est
très
vrai.
Violent. Ouais.
Le film roman, ouvre même sur une scène de torture.
Oui, oui. Bah, le roman était violent. C'est l'adaptation d'un roman de Pierre Poucheret. Le roman était violent. C'est un monde violent, de toute façon. Et puis, nous, on a visionné aussi toutes les vidéos de quand il s'arrête dans les stations-service. On a eu accès à tout ça avec les douanes et tout. Donc, les mecs sont quand même bien chargés.
À des vrais documents.
Les mecs sont chargés à tout, aux acides, au Red Bull, à la coke. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de les voir.
On est d'accord, vous avez mis le Red Bull au même niveau que l'acide et la coke.
J'ai essayé de sniffer le Red Bull, ça marche pas.
Non, mais c'est pas une drogue.
Tromper,
c'est ça le regard.
C'est pas une drogue, le Red Bull.
Si. Le Red Bull à haute dose, ouais, parce qu'il conduit sans dormir. Donc,
c'est un excitant, quoi.
La farine, on sait ce que ça donne, mais le
Red Bull. Non, mais j'ai jamais goûté de ma vie, mais là, ça donne pas envie d'un coup.
La drogue?
La drogue
non plus. Non, mais je vais me faire attaquer par Red Bull, mais c'est vrai que. Non, mais moi, j'en prends quand je roule. Ça m'arrive d'en prendre deux pour quand je suis un peu fatigué.
C'est marqué derrière. Et interdit de mélanger avec de l'alcool. C'est pour ça qu'en boîte, même quand tu commandes un vodka Red Bull, normalement, ils te mettent l'alcool et le Red Bull.
C'est pareil, ils ne mélangent pas.
Le mec, il connaît tous les plans.
Si tu mets les plans, voilà.
Les étudiants le font aussi quand ils ont des soirées charrettes comme ça, ils doivent bosser longtemps.
C'est du café, quoi. Enfin, autant prendre du café, non?
C'est plus efficace que le café.
Efficace, ok, le mot était lâché.
Non, pour pas dormir.
J'entends.
Bon, quand il a dit un truc, une émission sur la drogue, j'écoute. Hein. Je rajoute plus rien.
C'est la ref.
On l'appelle comme ça d'ailleurs dans le milieu. The ref.
Arrêtez ça.
Comment pitcher le film? C'est-à-dire qu'il y a deux enquêtes qui vont se croiser. Oui. Une enquête sur des assassinats qui ont lieu à l'hôpital Necker sur deux enfants.
Oui.
Et puis il y a un corps que l'on retrouve également dans la scène. Donc vraiment une enquête de meurtre.
De la brigade criminelle, ouais. 36, ouais.
Et puis, alors qui s'appelle toujours 36, même en ayant déménagé d'ailleurs.
C'est le bastion 36. Ils ont gardé le il n'y avait pas de numéro dans la rue. Et ils ont mis 36, mais parce que c'est la référence, quoi.
D'accord.
C'est l'âme de la PJ parisienne.
D'accord.
Alors, ils ne pouvaient pas changer.
Et puis, il y a.
Aller au 37, ça ne veut plus rien dire.
C'est sur surface, surtout.
Putain, je suis passé au 37, ça ne veut rien dire.
Et puis, il y a tout ce réseau, ce circuit qui part d'Afrique du Nord. On ne sait pas trop bien d'ailleurs de quel pays d'Afrique. Afrique du Nord, même si
on imagine que c'est au Maroc.
Au début, moi j'ai juste vu Afrique du Nord, mais j'ai dû cligner des yeux. Et puis le réseau,
la frontière du Rif, quoi. Il parle, voilà.
Qui a vu naître l'humanité, mais qui la voit décroître aussi avec ce genre de plantations, ouais. Parce que ça part aussi de plantations d'herbes et puis de deals de coke qui partent donc de l'Afrique du Nord vers l'Espagne pour remonter dans différents pays européens. Ouais. C'est ça.
Oui, exactement.
Ça, c'est régulier, tout le monde le sait, ça se passe toujours comme
ouais,
ça, on le
ouais,
sait.
Puis moi, j'ai parlé avec les douanes qui m'ont dit qu'ils avaient régulièrement des go-fast entre de toute façon la frontière Perpignan et la France, et que les flics espagnols parfois font des intrusions et puis ils calibrent les mecs et tout ça, donc, en France et tout, c'était assez passionnant, quoi.
Il y en a beaucoup des go-fast comme ça, je m'en rends pas compte.
Il y en a beaucoup, alors après, là, on est dans le...
Pour les plus jeunes d'entre nous, hein, qui ont moins de 82 ans, on va juste rappeler quand même ce qu'est un go-fast, c'est des voitures qui vont extrêmement vite, très puissantes, qui sont chargées
un bloc,
de... de produits illicites et qui...
Il n'y a pas que les voitures.
Avec la vitesse, sont impossibles à rattraper par des voitures de police ou des motards, c'est ça.
Voilà. Après, c'est les mecs sont quand même bien chargés aussi. Ça veut dire que c'est, en gros, c'est à peu près, ils prennent 20 000 euros pour un voyage comme ça. C'est d'ailleurs, ça passe ou ça casse, quoi. Voilà. Après,
c'est pas mal, 20 000 euros.
Ouais, mais enfin, 20 000 euros pour faire 50 paquets. Moi, je préfère rester dans mon fauteuil. Mais,
voir leur vie en danger aussi, parce que on voit aussi que, et c'est ça que j'ai trouvé fort dans le film. Je n'ai pas lu le roman, mais le film m'a impressionné sur le côté prêt à tout et risquer sa vie, mais des deux côtés. C'est-à-dire que des policiers risquent leur vie, et ils savent qu'ils risquent leur vie contre le grand banditisme, et ils mettent leur vie en danger, notamment en infiltrant ces réseaux. Ouais. Et les dealers, les trafiquants, les narcotrafiquants sont prêts à tout, et savent aussi qu'ils peuvent, à chaque virage, mourir.
Ouais, tout à fait. Non, bah après, il n'y a pas de règle chez les narcos. Enfin, la série Narcos, elle en parle admirablement bien. On n'a pas envie d'être un narcos quand on voit comment ça se passe, tous les coups fourrés.
Bah, on n'a pas envie d'être policier non plus, parce qu'on voit quand même que c'est... Non, mais c'est vrai.
Non, mais ça reste dangereux, mais après, on n'est pas...
Là, dans le film, on voit, il y a un policier qui est infiltré, mais tu trembles pour lui. Évidemment. Toutes les 5 minutes.
Mais moi, j'ai eu deux potes qui ont fait ce métier quand j'étais à la section antiterroriste, qui faisait de l'entrisme dans les milieux de ultra-gauche, hein, fait Action Directe, et qui était quand même une bande ultra-violente à l'époque. Et puis,
ça s'appelle entrisme quand on infiltre.
C'est de l'entrisme, oui. Et en fait, après, il y en a un qui s'est fait flinguer par un des lieutenants d'Action Directe, chez lui, au fusil à pompe. Et l'autre, il s'est suicidé, il n'a pas supporté la pression. Après, quand il a arrêté, il s'est transformé, comme dans les films. Hein, voilà, il s'est éteint en roue, il s'est rasé la barbe.
J'ai envie de dire, les films s'inspirent de la réalité. Oui, c'est plutôt l'inverse. Les films ont compris ce qui se passait. Et puis même là aussi, on sent la fragilité humaine dans le monde de la police. Alors évidemment, il y a la fatigue, il y a le fait aussi de voir certains de ses collègues tomber sur les balles ou risquer leur vie. Donc on voit et on sent cette fragilité, on sent le côté prêt à tout des narcotrafiquants, avec aucune règle. Et puis il y a même une vanne qui est faite sur le grand Manitou, entre guillemets, celui qui de son hacienda joue les Pablo Escobar. Je crois que la vanne est faite même dans le film. C'est-à-dire celui qui bouge pas, qui reste chez lui, qui donne tous les ordres et qui envoie tous les autres à la mort.
Après, moi, j'ai voulu faire un film. Moi, j'ai toujours fait des films où qui fantasment un peu tout ça. Là, comme dans le roman, il a eu le prix du Quai des Orfèvres. Et la spécificité de ce prix, c'est que toute l'histoire doit être le plus proche de la réalité, de la procédure policière. Donc, pour une fois, j'ai fait un film qui se rapproche vraiment de. On voit l'enquête.
C'est Mortel Trafic, le titre du roman de Pierre Poucheret.
De Pierre Poucheret, qui était, chez pour Fayard. La petite histoire, qui était avec moi au SRPJ Versailles en 1980, et on s'est retrouvé 25 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, à l'occasion du tournage de ce film. Je ne l'avais pas revu depuis.
Et qui a reçu le prix Quai des Orfèvres, donc on imagine que c'est estampillé, proche de la réalité.
Oui, tout à fait. C'est vraiment très proche du travail d'enquête que l'on voit, la criminelle qui va travailler en collaboration avec les stups de Toulouse. Et puis c'est aussi, moi j'ai un peu adapté tout ça.
C'est d'anciens policiers qui donnent le prix ?
C'est des hauts fonctionnaires, des flics, des magistrats, procureurs, tout ça.
Et vous les connaissez bien, puisqu'il y a Christophe Gava qui a aussi eu le prix des Quai des Orfèvres.
Qui a coécrit
Overdose avec vous.
Qui est un ami,
qui est un ancien flic aussi, qu'on connaît bien.
Enfin, il est toujours flic, il est commissaire, il est patron à la Berbé à Marseille.
Qui est le livre de Pablo Escobar, il vous remercie à la fin en disant ma plus belle rencontre, Olivier Marseille.
Ça y est, ça commence. Monsieur Morin. J'avais oublié qu'il fallait pas que
on ne peut pas oublier.
Il faut juste préciser qu'il signe Endorphine chez Fayard Noir, qu'il avait signé Cap Canaille aussi.
Exactement, qui a eu le prix du Quai des
Orfèvres. Qui a eu le prix, absolument.
Mais il a beaucoup de talent, Christophe. Ouais.
Quand vous donnez le titre d'Overdose à ce film, évidemment on comprend l'allusion faite à la drogue, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une overdose en termes de densité aussi dans le travail et dans la fatigue chez les policiers ?
Oui, overdose de violence, overdose de
tout dans l'excès, en fait.
De ce monde, en fait, dans lequel on est, quoi. Voilà, et puis on se rend compte, en fait, que il n'y a pas vraiment de morale à la fin du film, comme souvent dans mes films. Moi, c'est toujours très, très pessimiste. Hein, donc,
parce que vous voilà, l'êtes
bah, moi, sur je la, suis, oui, mais la c'est la citation que je mets de Walt Breslin, ouais. Qui dit « Le monde est un sale endroit, on essaie de l'améliorer. Je ne vaux pas mieux, mais j'essaie de l'améliorer. » c'est, voilà, quand on est flic, bon, on se le prend en pleine gueule, et puis ça ne fait pas de nous des êtres meilleurs. Quoi.
Non, puis il y a toujours ce truc, ce vieux fantasme où on dit « On déclare la guerre à la drogue, mais on sait que c'est terminé. » De toute façon, c'est mort.
Il y a, donc s'il n'y a pas de morale, vous voulez qu'il y ait du spectacle, parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il y a des cascades, qu'il y a des, il y a des scènes totalement dingues, il y a de la poursuite, il y a de la tension, parce qu'on se place dans la position, alors chacun choisit son camp, Alex, mais moi je me suis mis dans la position des policiers en me disant comment vont-ils s'en sortir, à quel point risquent-ils leur vie. En plus, Sophia Essaïdi porte un personnage qui a plusieurs facettes, j'ai envie de dire, à jouer. On n'est pas dans la comédie romantique, mais on sent qu'elle est en manque de d'amour et d'équilibre dans sa vie privée.
Ce sont des êtres seuls, le flic de la crime et elle. Ce qui n'est pas dans le roman. Dans le roman, le flic, il est marié, fidèle, amoureux. Et puis elle c'était...
Là, il est marié, séparé. C'est une question d'infidélité.
Sa femme est partie avec sa fille. Quoi. Voilà. C'est ce qui est arrivé.
C'est deux solitudes.
Je suis inspiré. Non, mais je suis rentré un soir, j'étais avec un pote qui faisait la nuit avec moi. Et il m'a dit, viens boire un verre à la maison. On arrive et on est sur le palier. Puis il met la clé et j'entends clonk, 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 clonk. Ça sonne vite derrière. On se regarde, l'appart avait été vidé dans la journée. Le matin, il avait pris le petit déjeuner avec sa femme et tout. Il avait tout pris, sauf ses fringues. Il n'y avait même plus une applique, même plus rien.
Elle l'a aidé à déménager.
Violence, ça, le point de vue féminin, mais
c'est pas. Mais ça, quand t'es marié avec Marie Kondo, il y a un moment, faut que tu te dises, il en a arrivé des bricoles. Alors, elle a nettoyé.
Mais... Plaignez-vous. Il n'y avait rien à ramasser.
Rien à ramasser.
Qu'est-ce qu'ils sont relous.
Ça, c'est Leïla en fin de soirée qui cherche des trucs. Il n'y a plus rien à ramasser, je m'en vais. Hein. C'est moi la ref.
On s'en fout du matériel, Olivier.
Exactement.
Alors, l'important, c'est les sentiments.
C'est trop lourd à gérer.
Tiens, Leïla, t'as perdu ta boulette.
Elle a laissé. Alors, il faut préciser qu'en effet, il y a du papier aluminium.
Oui, parce que vraiment, il faut qu'on raconte ça.
Parce que tu as mangé,
parce que j'amène mon goûter.
Ah ouais, à 11h à la fin.
Oui,
c'est normal, c'est l'heure du
repas. Ça creuse.
L'écriture de ce film inspiré donc du roman, vous avez voulu aussi la faire dans une tension et presque dans une unité de temps. On a l'impression qu'on prend, à part l'affaire des meurtres au début à Necker, qui est légèrement décalé, mais ensuite on est vraiment dans le tempo des voyous qui font le go-fast.
Ouais, c'était un vœu aussi de d'Amazon qu'on soit plus du côté
des voyous.
Après, on est très, très présent avec les flics, mais toute la nervosité du film vient évidemment de toute la tension que développe cette bande de fêlés. Là.
Et puis il y a toujours la tension entre les différents corps de police. C'est-à-dire que ça, c'est inévitable qu'ils se retrouvent sur un même lieu, dans une même planque, à se gêner les uns les autres en fonction de leur travail, de leur angle de vue du problème, d'aider des indics à faire un cambriolage pendant que l'autre policier veut les arrêter.
Ça, c'est inspiré d'une histoire vraie aussi. C'était un de mes patrons qui avait fait ça. Mais bon, c'était pour la bonne cause. C'était pour avoir des tuyaux sur Messrine. Et en fait, il avait eu un tuyau par un mec, mais qui lui avait dit, écoute, je suis à sec, là, il faut m'aider. Donc, on est sur un coup. Et donc, il avait couvert le... Mais je parle de ça, c'est les années 70, 80.
Ça, on n'a plus le droit de faire ça.
Non, on n'a plus le droit.
C'est fini.
Ça n'existe plus. Ça.
Ouais, les échanges de bons procédés.
Mais ça vous fait rire de le raconter.
Moi, j'adore. J'adore. J'ai travaillé avec tous ces mecs-là. Moi, je suis arrivé, j'avais 20 ans, j'étais un gamin. J'étais aussi noche, quoi. J'étais avec Ventura, Gabin et Belmondo, moi. C'était
des fous, les mecs.
Olivier, aussi flic. Vous pouvez comprendre. D'ailleurs, le film est dédié à Jean-Paul Belmondo, d'ailleurs.
Ben oui, parce que j'ai eu la chance de le connaître et il est, comme j'ai dit, la représentativité de tout ce pour quoi on a choisi ce métier. Et c'était un amour, c'était un mec ultra généreux, toujours de bonne humeur. Ça a été un être, je n'ai pas croisé une seule personne qui m'ait dit du mal de lui. Quoi. Pourtant, Dieu sait si on en dit du mal les uns des autres dans ce milieu. Et lui, c'est l'unanimité, il fait l'unanimité. C'était vraiment un vrai gentil.
La
grande classe.
Absolument. Ouais. Overdose, le nouveau film d'Olivier Marchal, disponible à partir du 4 novembre prochain sur Amazon Prime Video. Si j'avais eu un fils caché avec Sophie Marceau, je l'aurais appelé Ayoub Marceau.
je viens de comprendre.
Alors, merci la guerre. Bah, bonjour tout le monde, content d'être là aujourd'hui, et pour une fois que c'est moi qui reçois un policier.
Ce serait très bien.
J'évolue, je grandis, ça fait plaisir. D'ailleurs, j'ai une question, Olivier Marchal. Où étiez-vous hier entre 8h et 22h? J'ai toujours rêvé de faire ça. Franchement, bah, c'était mon rêve un peu d'être policier.
Avec votre femme, Ayoub.
C'est exactement ça.
Je passe pas. Il veut savoir, je dis.
On est totalement dans les répliques du film.
Exactement. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais hier j'étais avec Mathieu Madénian. Un ami à moi que vous connaissez très bien. Ouais, oui, il m'a dit de passer le bonjour.
Voilà. On vient de faire un film ensemble.
Je sais pas si vous voyez ce qui c'est Mathieu Madénian, c'est l'humoriste de province, là, qui est un peu fou. Et bien, c'est un ami. Et il m'a dit, franchement, il m'a parlé de vous hier soir, on en a parlé. Et il m'a dit que c'était un mec super sympa, généreux, altruiste, qui vous aimait beaucoup. Et que là, vous êtes en train de tourner une série policière à Marseille. Donc voici le numéro de mon agent de probation qui fait aussi argent artistique. Voilà. Et en arabe, je peux tout faire moi. Je peux tout faire en arabe. Je peux faire arabe qui saute, arabe qui court, arabe qui met des sens, arabe qui. J'ai un panel incroyable. En tout cas, bravo pour votre carrière. Moi, alors vous êtes imbattable en matière de polar, mais il paraît qu'en matière d'apéro, vous êtes pas mal non plus. Voilà. Mathieu m'a même raconté qu'il a perdu une finale face à vous. Donc voilà.
Il a perdu la vue. Ouais.
Mais histoire de vous détendre, je vais aborder un sujet aujourd'hui que personne parle en ce moment. C'est l'essence, voilà. En fait, c'est moi, c'est pas l'essence qui me gêne, ce sont les personnes qui en parlent. Et une surtout, ma nièce, elle a 10 ans, et c'est juste ma nièce, mais elle me parle trop, quoi. Et ce week-end, on est en famille, elle me branche sur l'essence, elle a même pas de voiture, même sa mère a pas de voiture. Alors pourquoi tu me parles de l'essence? Et pour info, je suis pas ton père. Non, c'est vrai. Non, mais c'est fou, ces enfants, comment ils ont une capacité à nous parler des choses qui sont pas de leur âge et qui les concernent pas. Je veux bien que tu me parles de l'essence, mais au moins, attends d'avoir une voiture et toutes tes dents. Tu vois, mais bon, on était à table, on mangeait bien. Ma nièce vient me voir et me dit, tonton, tu as vu, l'essence, c'est grave, c'est devenu très cher. C'était à plus de 2 euros il y a quelques mois et là, il y en a plus. Et là, elle craque et elle me demande, est-ce que malgré tout ça, je vais continuer à venir les voir? Je la rassure, je lui dis oui, je continue à venir vous voir, parce qu'on mange très bien chez eux. Mais je trouve surtout que pour un enfant de 10 ans, elle ouvre un peu trop sa gueule. Quand même, vraiment, ça... Mais bon, comment je bosse à France Inter maintenant et que je vais tourner dans la prochaine série d'Olivier Marchal, je me suis dit aussi qu'il fallait que je lui explique la vie et j'ai décidé de lui faire comprendre qu'on a la chance d'être en France et que même s'il n'y a plus d'essence, il n'y a rien de grave. Et qu'il y a bien plus grave que ça, malgré tout ce qui se passe en Ukraine et en Russie. Et là, elle me répond pourquoi il a combien l'essence là-bas. Voilà, elle a pas compris le concept.
C'est pas idiot, hein.
C'est vrai, c'est pas idiot. Après, c'est vrai que l'essence est un vrai problème de société. On a une petite pensée pour tous ceux qui ne peuvent pas travailler correctement et une très petite pensée pour tous les commerciaux qui font du porte-à-porte et qui peuvent pas escroquer les gens correctement en ce moment. Oh. Voilà. Moi, je m'y connais c'est pas vrai. Trop en essence, mais je m'y connais bien en bagarre. Et je pensais pas qu'un jour on allait arriver dans notre vie à se battre avec des entonnoirs et des bidons de 12 litres. Là, c'est abusé, là. Après, moi, je pense que j'aurai bientôt plus besoin d'essence parce que là, je galère avec mon scooter, mais c'est encore pire depuis que je dois payer le parking. Là, c'est les parkings pour payer son scooter. Ouais. Et encore, je parle pas d'essence interdite. Il y en a partout dans Paris. L'autre jour, je roule, je vois l'essence interdite, c'est interdit, c'est interdit. Du coup, je fais quoi? Je reste là, moi? Moi, j'ai des projets sinoches avec Olivier, là, faut que je me casse. Là, moi, j'ai toujours respecté la police et respectons la police, mais là, il y a une police en ce moment, c'est la police d'Hidalgo. C'est la mairie de Paris, il est SVP.
Ouais.
Bah bravo. Agent de surveillance de la voie publique. Ils peuvent t'enlever des points.
Ah bon?
C'est vrai. Ouais,
ouais, ils peuvent t'enlever des points et te dire de refaire tes lacets. Ouais, c'est deux trucs. Voilà, c'est... en fait, pour le code de la route, ils ont les mêmes pouvoirs que la police, mais juste, ils sont pas de la police. C'est bizarre ce truc.
Ah ouais.
L'autre jour, il y en a un qui m'a enlevé 4 points, mais le pire, c'est que le mec est en vélo électrique. Franchement, si vous voulez m'arrêter, ok, mais allez au moins prendre une voiture avec un gyrophare. Un peu de respect pour les arrestations, quand même, c'est vrai. Alors, monsieur Maréchal, vous qui avez le bras long, je veux bien un peu d'aide car ils doivent encore en train de m'aligner, et pour votre série, vous m'avez compris. À très bientôt, merci.
Merci, Ayoub.
Merci.
Overdose, le film, le nouveau film sur
Amazon,
je sais plus comment je vais le dire, avec de la musique. Et puis un titre d'Axel Bauer.
La nouvelle est tombée ce matin.
Comment ça s'est fait, racontez-nous.
Le froid gagne un peu.
Je voulais une fin un peu mélancolique, quoi, ouais. Parce que c'est deux êtres qui se ratent, quoi, en fait, l'histoire d'amour. Et je suis tombé dessus par hasard. J'étais en tournée, j'étais en tournage en province. Un matin, on commençait tout chier dans les hôtels, en attendant le pick-up. Je regardais, il y avait le clip de la semaine, et c'est cette chanson, et je suis tombé red dingue de ça. Et Axel, il m'a gentiment
elle va tellement bien.
Autorisé. Ouais, puis ouais, il n'avait pas vu le film, donc il avait quand même pris le risque.
Il y a toujours un risque, on se dit après si le film...
Ah oui, mais enfin, il y a la patte, ouais. Olivier Marchal, on sait bien la qualité de, ouais, de
c'est
votre
c'est gentil, genou. Merci, après, moi je suis
ça
toujours
rien,
dans le doute.
Ça t'imagines hein, s'il y a eu Vianney qui passait à ce moment-là, on avait... on avait Vianney dans le film.
Respect. sur le tournage, est-ce que, je ne sais pas combien d'impacts de balles, combien de pruneaux sont balancés sur le, sur le tournage, mais il y a beaucoup aussi d'effets, pas des effets spéciaux, mais des cascades, carrément. Et quand on fait des cascades, on a droit qu'à une prise.
Ben en France, oui. Le Fast and Furious, non. Matt Damon, non plus. Dans Jason Bourne, ils ont 200 voitures identiques. Mais nous, on a une Porsche qui roule, et puis une autre qui est plus vieille, le même modèle, qui va au carton. Mais on a droit qu'à une prise. Alors on met 6 caméras, et puis on se dit...
Inch'Allah.
Et là, la faillite ratée, parce que le chef cascadeur a envoyé le... Et les caméras n'étaient pas parties. On les a fait partir au dernier moment.
Mais non.
Ouais, donc, et une fois qu'ils sont lancés à fond... Là, on était morts.
Tu regardes les images, il y a juste une voiture qui fume. Déjà.
Ça tire rien le chômage.
Attends, reviens en arrière.
T'imagines, la cascade démarre, c'est caméra 1. Ah non, j'ai eu un problème technique. Caméra 2. Non, c'est-à-dire
j'ai pas filmé mon sandwich.
Allez, caméra 6, ouais, c'est bon, je suis prêt. Bah non. 6 caméras sur la cascade. Wow.
Ouais, mais c'est pas beaucoup.
Et une caméra embarquée aussi.
Ouais, on met les crash box. Après qu'on enlève, qu'on voit dans les. On les enlève aux VFX après, on fait.
Aux effets spéciaux.
Ouais, aux effets spéciaux, après on les.
C'est super bien foutu, c'est tellement réaliste. Non, mais vraiment.
Ouais, après, c'est un film que j'ai fait à hauteur d'homme. Enfin voilà, moi, c'est pas très. Moi, j'aime pas les cascades, tout ça. En fait, j'en mets parce que c'est inhérent au genre policier. Hein. Mm. Mais dès qu'il y a des scènes de baston, des trucs, ça, tout le monde se fait mal, même si on. Parce que là, on n'a plus le temps, comme avant, de répéter, de chorégraphier tout ça. On fait tout à l'arrache. La fusillade sur l'autoroute, à 14h30, je n'avais pas un plan. Le soleil tombait à 17h. Et j'ai dit aux acteurs, one shot. On avait 10 acteurs en train de se bombarder dans une autoroute bloquée avec 50 voitures. Il fallait réouvrir l'autoroute en plus à 17h30. On n'avait pas le temps. Quoi. Donc, mais ça met cette tension chez les acteurs. Oui. C'est vrai qu'il y avait des flics dans la salle. Ils m'ont dit, putain, la fusillade, c'est un tel bordel qu'on y est. Quoi. Il n'y a pas de... mais oui, parce que moi, j'ai été pris une fois dans une fusillade. Il n'y a pas de roulé-boulé avec le machin, avec le kick machin, le truc et tout. Là.
Il n'a fait pas sa femme et tout derrière la voiture.
C'est tout le monde à terre. Et
donc finalement, voilà. Pas avoir de temps, pas trop de temps, ça contraint ça a du bon, à être plus réaliste,
ouais,
finalement.
En tout cas, on n'a pas le temps de se poser de questions. Ouais. Mon régleur, c'est Alain Figlard. C'est vrai ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble. Et puis les acteurs ont joué le jeu. Quoi.
Mais il y a des super plans dans le film de drone où on arrive dans des endroits incroyables. Quand on arrive chez le parrain, un peu dans cette hacienda, il y a des plans en effet à hauteur d'homme quand ils montent les escaliers comme ça et qu'on découvre. Il y a de très belles trouvailles en plan, je trouve.
Ouais, c'est gentil. Ouais. Merci, Léna.
On continue de parler d'Overdose jusqu'à midi et demi et de la musique dans la vie. Précision, tout à l'heure, nous recevons Emmanuel Leclerc, qui est grand reporter au service Enquête et Justice de France Inter, et nous parlerons du trafic de drogue en France. Puisque c'est
le top 5 des drogues en ce moment.
Je crois qu'il y a suffisamment de gens en courant autour de la table, c'est ça qui me gêne. Voici la musique donc dans la vie d'Olivier Marchal. Dans les années 70, Olivier Marchal, écoutez David Bowie.
Et on vous retrouve chez les Jésuites.
Oui.
Olivier Marchal,
c'est ça qui fait de moi cet être totalement rigoureux.
Chez les jésuites à Bordeaux. Vous
il a retenu que Bordeaux dans sa vie.
Vous y recevez un enseignement religieux?
Non, parce que c'était une pension tenue par le père Joseph, qu'on appelait Joe.
Et
ce qui était incroyable, on était 1200 garçons, c'était pas mixte, déjà avec les blouses grises et tout ça, donc à l'ancienne. Et on n'était pas obligé d'aller à la messe, en revanche. Et puis c'est là où j'ai découvert le théâtre. C'est
l'amour.
Avec mon éducateur.
Oh non.
Ouais. On l'appelait Baise Sidou d'ailleurs. Mais en plus, c'est vrai, je vais pas dire son nom, mais c'était son surnom. On avait un surveillant général qui était un ancien légionnaire qu'on appelait Bobo, quand dans la BD il était rasé, et Monsieur Simon qui était ancien sergent-chef dans les commandos.
Et pourquoi vous vous retrouvez là?
Ben parce que j'étais très indiscipliné. Mes parents, ils ont fait une belle chose. Ils m'ont mis en seconde. Ils m'ont dit tu vas aller en pension. Je pense que ça va te cadrer un peu.
Ouais, et ça a marché.
Ouais, non, vraiment. Après, on était des branleurs, hein, mais, mais ça, ça
m'a. Il est devenu flic après. Ça m'a...
Oui, mais sauf que le goût du jeu, oui. du théâtre est venu là-bas.
Ouais, tout à fait.
Il y avait des femmes parce que c'était une prof.
Ouais, mais
oui ou non.
Bien
oui.
sûr. Non, on était amoureux de notre prof d'histoire géo, Madame Monnier, si elle m'entend aujourd'hui, voilà, qui était magnifique.
Bah, non, mais aujourd'hui, elle est d'accord.
non, c'était. c'était un homme. C'était un homme qui s'occupait de nous.
D'accord.
Lui aussi.
Voilà. C'est pour Daniel, celle-là. Je l'ai pas, celle-là. Voilà.
C'est gentil.
En 1991, Olivier Marchal, vous écoutiez.
Et moi, je te connais à peine, mais ce serait une veine qu'on s'en aille un peu comme eux. On pourrait se faire sans que ça gêne de la place pour deux.
Barry White.
Mais si ça ne vaut pas la peine.
Elle est dingue, cette chanson.
J'adore Chénéon, moi. Voilà.
Elle est dingue parce qu'elle porte toute la tristesse du monde en parlant du bonheur.
Exactement.
Moi, ça m'emmerde.
ça rappelle ta vie, c'est ça ?
Totalement.
On est en 91, Olivier, et vous commencez à écrire des scénarios, notamment pour la série Commissaire Moulin.
Oui.
Comment vous entrez là-dedans ?
Je viens de cette génération. Yves Régnier, c'était le Moulin. Moi, j'avais grandi avec Belphégor, Les Illusions Perdues, les Globetrotters, c'était mon idole. Voilà, donc... La série Commissaire Moulin, qui était d'un grand modernisme à l'époque par rapport aux certaines séries un peu...
Modernisme, parce que proche de la réalité.
Oui, et puis lui c'était un flic cette génération de flics, le blouson de cuir, la bécane, cheveux longs, le diamant, et tout ça, il représentait toute cette génération de poulets. Et donc c'est moi qui l'avais appelé, je lui avais envoyé un scénario que j'avais écrit. Et puis il m'a dit, allez viens, on va discuter, et puis après c'est devenu un ami, quoi, voilà. C'est lui qui m'a ouvert la porte, Yves. C'est le premier qui m'a fait rentrer dans ce métier et j'ai eu beaucoup de peine quand il est mort, quoi. Voilà, ça.
En 99, vous écoutiez Alliance Ethnique.
J'adore.
En tout cas, on se rend compte qu'il n'y a pas un style de musique qui correspond à votre bande originale. Vous écoutez toutes les musiques ?
Ouais, tout. Bah, je suis plutôt variété française. Hein. Moi, j'écoute Beko, Reggiani, Léo Ferré. Enfin,
les textes plutôt.
Oui, les textes, par exemple. Quand je dis variété,
c'est. Il y a des vivants ou pas ? Non,
non, mais dans les.
Bah non, il y a Alliance Ethnique.
Non, mais Axel Bauer, Bachung, tout ça, voilà. J'écoute beaucoup dans le rap. Moi, je ne suis pas. C'est mes filles qui me branchent.
Qui vous éduquent.
Oui, voilà. Après, non, mais j'adore, il avait fait la musique de mon film Carbone, Aurel San, voilà, je suis...
Ouais, mais les textes encore, et toujours.
Les textes, ouais.
On est en 99, et vous réalisez votre premier court-métrage, qui est remarqué à Cognac, Un bon flic. C'est programmatique, ça ? C'est tout un programme, Un bon flic.
Non, c'est l'histoire d'un flic ripou, on le suit pendant toute la nuit, et puis le matin, il fait une leçon de morale à son fils, parce qu'il a volé des CD dans un magasin, et il tape en honte, et tout ça, enfin voilà, c'était un clin d'œil.
Bonne idée, une bio, voilà.
Et vous l'avez revu récemment, ce court-métrage ?
Ouais, je l'ai revu à Cognac parce qu'ils m'ont fait une petite soirée rétrospective, hommage. Voilà, donc c'était
de votre vivant.
On peut le voir, nous, ou pas ? Il est sur YouTube, on peut le voir facilement ?
Je crois pas.
Ah, je serais curieux, moi.
Ah ouais, non, mais il fait 20 minutes et tout.
Quelles sont les qualités, les défauts de ce premier court ?
Il est un peu trop long, j'ai voulu tout y mettre, mais après, il est ultra violent, il est ultra dark, et je suis hyper content. La scène d'ouverture, il y a deux, trois scènes. Non, mais il a été remarqué.
Ça donne envie de le voir,
mais surtout que quand j'étais à Cognac, c'était surtout, il y avait Oliver Stone et Brian De Palma qui étaient dans le jury, donc on projette le film, il y a les deux monstres à côté, c'est un grand souvenir.
Les deux qui ont signé Scarface, en plus.
Oui, en plus, c'est vrai, exactement.
Vous parliez de Gilbert Beco, justement, c'est ce que vous écoutiez en 2019.
C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne.
Alors, c'est ce que j'aime, c'est qu'en 2019, on n'est pas obligé d'écouter un titre qui est sorti en 2019. Non. Pourquoi cette chanson correspond à cette période pour vous ?
Parce que elle m'émeut, et puis Beko, moi je pleure sur du Beko parce que j'ai un endroit qui est où je vais au Pila, je suis du Pila-sur-Mer, d'Arcachon, du bassin. Et c'est vrai, on va au bal à papa, qui est tenu par mon pote qu'on appelle le Gitan, qui a 65 ans et qui chante, et qui chante des chansons de Johnny, Sardou, et ça va de 7 à 77 ans. Et j'ai toutes mes vacances là-bas avec mes enfants. Ils ont grandi, ils ont été aux platines chez lui et tout ça. Et il fait des imitations de Beko et on finissait les soirées comme ça avec du Beko. Ouais, bien sûr, mais bourré et en chiolant, quoi.
Voilà, je peux te dire qu'il pleure souvent, Marshall.
Marshall, on va
dire. Il pleure même le matin.
Ah, ouais, ça, il chiale. Bah, il se voit dans la glace.
Et en 2009.
Il est hypocrite parce qu'il m'a dit t'es trop beau, tu changes pas. Il m'a dit tout à l'heure, Daniel. Voilà, il fait le beau devant
les gros. C'est pas faux.
Dans le privé, il est flatteur.
Mais Daniel, elle a vu qu'il baisse aussi.
Non, mais il est amoureux. Il est amoureux, Olivier.
C'est une longue histoire d'amour.
2019, Olivier, on vous retrouve aux États-Unis. Vous faites la rencontre d'un homme qui, a priori, pourrait avoir comme vous un petit côté ours mal léché. Ouais. C'est Michael Connelly.
Michael Connelly.
Pour un documentaire Planète Polar, le Los Angeles de Connelly, qui a été diffusé sur France 5. Ouais. Pourquoi lui ?
Bah, c'était en fait l'idée d'un producteur. En fait, ils m'ont pris moi parce que bon, on dit que je représentais un peu le polar français. Là, je n'ai pas cette prétention, mais bon, que je suis un spécialiste en tout cas. Mmh. Et en fait, ils voulaient me faire rencontrer un pays, un auteur. Quoi, ouais. Donc, on devait après aller rencontrer un écrivain anglais là, qui vit en Thaïlande. Et puis après, je crois que le projet n'a pas bien pris ou mais ça coûtait trop cher et puis ils ont arrêté.
Mais cette rencontre avec Michael Connelly, elle est super.
L'idée était de comprendre quel était le rapport entre le cadre dans lequel on écrivait des histoires et ce que les lieux disent et racontent.
Exactement.
C'est aussi le cas dans votre film Overdose. Globalement d'ailleurs, dans ce que vous écrivez, vous avez besoin de vous projeter dans un endroit précis pour que d'un coup tout déroule.
Ben toujours, ouais, 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 tout.
Faut arrêter d'écrire à la cave, Olivier, hein, parce que c'est trop glauque. Non,
parce qu'on voyage beaucoup dans Overdose aussi. Hein.
Ouais, mais c'était un pari. C'est vrai qu'on a bougé tous les trois jours. On a fait Perpignan, Toulouse, Carcassonne, Narbonne, Lourdes, enfin des jolis coins culinaires aussi. Et l'Espagne, on a tourné à Séville, on a tourné dans le désert espagnol, on a tourné dans cette finca avec 450 taureaux de combat qui sont élevés là. C'était génial. On
et le Los Angeles de Connelly aussi résonnait comme ça.
Ouais, mais il m'a amené sur tous les lieux qui font partie de ses livres. Il m'a amené dans les égouts de Los Angeles. Il m'a amené le
commissariat.
Là où est tournée la série. J'ai oublié le nom de son
boss.
De Bosch. Ouais, voilà, c'est ça. C'était génial. C'est vrai que Michael Connelly, il s'est ouvert le dernier jour. Il nous a invités chez lui dans sa villa qui domine tout Los Angeles. J'ai vu la maison de De Niro dans Heat. Il m'a amené partout. C'était super pour moi. Et la maison de Tarantino. J'ai tout vu. Bon. Et en fait, il a commencé à s'ouvrir.
J'ai un enfant
qui revient de Disneyland.
Exactement. Non, puis lui, c'est un ours, vraiment. C'est un ours très fermé. En plus, moi, je parle pas bien anglais, donc...
Déjà, français, c'est limite.
Pierre, mais c'est pas possible.
Pourquoi t'es méchant comme ça?
Olivier
Marchal. Tellement facile d'être méchant aujourd'hui.
Fais-lui un câlin.
Jusqu'à midi et demi. On va parler avec Emmanuel Leclerc qui nous a rejoint. Bonjour Emmanuel, merci.
Bonjour.
À ce micro, vous êtes journaliste, grand reporter au service enquête et justice de la rédaction de France Inter.
Et vous aussi, faites-lui un câlin.
Est-ce que quand on est journaliste et qu'on fait des enquêtes, on est un peu comme un policier aussi à essayer de dénouer des nœuds, à trouver des points de rencontre dans différentes histoires? On est presque un policier sans être sur le terrain?
En tout cas, on essaye de comprendre effectivement certaines logiques, trouver également les personnages. Avoir le nom d'un personnage permet d'un trafiquant permet de reconstituer sa vie, son parcours, ses complicités. Également, là, je le vois, j'essaye d'être sur la trace de celui que le Parisien a qualifié de Pablo Escobar français, qui a été arrêté à Dubaï il y a quelques mois. Donc il y a eu un article, mais on n'a pas son nom, on ne sait pas qui c'est. Depuis, j'ai réussi à avoir le nom, mais en fait. Il n'existe pas. Il est pas, il a jamais fait la une des médias, il a jamais été arrêté pour une petite affaire il y a 10-15 ans. Non, c'est quelqu'un qui est un passe-muraille. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai essayé de le tracer un petit peu. Alors a priori, il était concierge de luxe il y a quelques années sur la Côte d'Azur. Et puis comme certains de ses congénères est parti à Dubaï il y a quelques années. Et puis là, il a prospéré quelques
Parce
affaires.
Parce que Dubaï devient une plaque tournante des trafics de drogue.
Et du coup, bah, quand vous êtes concierge de luxe, vous allez un peu partout dans le monde. Vous êtes capable de procurer un jet à qui veut dans l'heure qui suit. Bah, dans ce cas-là, vous avez aussi la possibilité de transporter quelques mâles, voilà, par-ci par-là.
Le nerf de la guerre, c'est toujours, mais là, la question est pour les deux, c'est toujours tout à l'heure, on a passé Sex and Drugs and Rock'n'Roll de Yann Dury. Si on enlève le rock, il y a toujours drogue et sexe qui sont, et argent, donc, qui sont intimement liés dans toutes les histoires, on a l'impression.
Alors, drogue et sexe, moi, je sais pas, ça, c'est Olivier Marchal qui le sait mieux que moi.
Argent, en tout cas, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. C'est le moteur de tout et c'est le.
Ah bah carrément, quand vous brassez alors il y a quelques années on en était à quelques dizaines, centaines de milliers d'euros, ouais. Il y avait quelques millionnaires. Là hier soir j'ai eu un enquêteur du côté de La Haye, hein, du côté d'Europol, qui disait que lui, ses clients aujourd'hui, c'est des gens qui brassent 1,5 milliard de chiffre d'affaires par an.
Alors comme vous disiez, avez des clients, c'est des bandits?
Oui, évidemment. D'accord, des trafiquants. pour un enquêteur, il a des clients. C'est évidemment des gens qui brassent 1,5 milliard de dollars par an.
Ça veut plus rien dire. On se rend plus compte.
Joli business, quoi.
Ouais, c'est ça.
Alors c'est net, hein, comme il disait.
Plus souvent. C'est ça l'avantage. Il y a pas de finalement, chez Total Energy, ils font pas autant que ça. Voilà.
C'est hors taxe. Là.
Et donc évidemment que le nerf c'est de la fou. Guerre, c'est l'argent. Et ces gens-là ne doivent essayer d'en perdre le moins possible, hein, oui. Évidemment. Là, aujourd'hui, on est quand même avec des gens qui se font traquer, pas seulement en France, hein, évidemment, puisque tout à l'heure, j'ai entendu vous disiez qu'on allait parler de la France, mais en fait, vous pouvez pas parler de la France si vous ne parlez pas de l'Espagne. Alors, c'est dans le film d'Olivier Marchal, mais ça, le scénario Espagne-France, on le voit encore, puisque la semaine dernière, j'ai vu passer un fait divers sur l'autoroute A7, trois voitures qui se font choper avec 300 kilos de cannabis. Donc, on est encore sur le scénario d'Olivier Marchal. Mais qui était très très fréquent il y a une dizaine d'années. Oui. Hein, les GoFast, c'est l'affaire Sofiane Ambly, c'est Moufid Bouchibi qui étaient les deux gros patrons des trafics en France. Donc là, on était vraiment avec de la drogue arrivée du Maroc, du cannabis. Mais aujourd'hui, Nagui, on est bien au-delà du cannabis. Évidemment, on est bien au-delà de l'Espagne et de la France, puisque c'est surtout
au-delà du cannabis avec des drogues beaucoup plus dures et
alors aujourd'hui les enquêteurs qui font des grandes enquêtes, les enquêteurs de police judiciaire, on est évidemment sur la cocaïne, on a un peu de retour de l'héroïne et surtout la méthamphétamine.
Ouais,
la méthamphétamine avec des laboratoires qui n'ont plus besoin d'être en Afghanistan,
on n'a plus besoin de plantations.
En Amérique centrale, on n'a plus besoin de plantations, même si ça marche très bien quand même. On est sur des laboratoires. Le dernier a été démantelé près de Berlin la semaine dernière. On sait qu'il y en a eu un encore, je crois, le mois dernier, c'était en Espagne.
On a l'impression que c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on a l'impression que dès l'instant où il y a une filière qui est arrêtée ou un réseau qui est démantelé, immédiatement ça ressort de l'autre côté comme une maladie impossible à guérir.
Alors ça, c'est pour les points de deal, c'est évident. Quand vous avez des dizaines et des dizaines de tonnes de cannabis qui rentrent chaque année, de toute façon, effectivement, vous trouvez toujours un revendeur pour aller essayer de gagner une place dans un quartier un peu discret pour éviter
Mais j'ai l'impression que c'est dans tous les quartiers, même. C'est même plus, il n'y a pas un quartier de la drogue. Tous les milieux sociaux sont touchés
On a parlé de Paris, de Lyon, de Marseille pendant des années. Mais là, on voit bien que ça défouraille du côté de Nantes. Hein, alors, on dit que c'est deux grandes familles qui se font la guerre déjà depuis maintenant une dizaine d'années. Moi, j'avais fait un portrait d'un des gros dealers nantais. Mais lui, c'était l'inverse. C'était un peu à l'ancienne, justement, un peu comme dans les films d'Olivier Marchal. Il était très discret, comme un mafieux italien. Il vivait dans une petite maison dans la banlieue nantaise. Et lui, justement, son truc, c'était d'être le plus discret possible pour éviter de se retrouver au milieu, de se faire canarder un jour par un concurrent.
Parce que ce qu'on voit dans le film d'Olivier Marchal, c'est la réalité de ce que vous entendez de la part des policiers, de ce que vous faites dans vos enquêtes. C'est-à-dire qu'ils ont un marché, ils installent, les narcotrafiquants installent un marché pour gagner des milliards, comme vous dites. Et au moindre problème, on tue systématiquement. On a l'impression que c'est extrêmement simple pour eux de tuer et que ça se passe toutes les deux minutes.
L'expression des enquêteurs, c'est une violence inouïe qu'ils ont découvert depuis maintenant 3 ans. Parce que justement, là, dans le film d'Olivier Marchal, c'est au départ une policière qui a un tonton, qui, enfin un tolard, un ex-trafiquant qu'elle réussit à retourner. Là, depuis maintenant 3 ans, on en est plus là. On n'est plus dans ces histoires avec un tonton, un policier qui enquête, qui réussit à avoir ses contacts. Là, depuis 3 ans, on le sait, les polices européennes, d'abord françaises et néerlandaises, ont réussi à pirater un serveur qui se trouvait du côté de Lille. Avec ça, ils ont réussi à écouter des dizaines et des dizaines de trafiquants sur leur téléphone portable, parce qu'ils avaient tous téléchargé une application en pensant qu'elle était hyper sécurisée, et puis évidemment, il y avait une faille. Et là, c'est les gendarmes qui ont réussi à la trouver. Depuis, les polices européennes ont réussi à pirater une autre application qui s'appelle SkyICC. Et alors là, ça a été énormissime ce que les polices européennes ont réussi à démanteler, à écouter, hein, surtout des trafiquants. Et donc là, ils se sont rendus compte que chaque chef de trafic, ceux dont je parlais, là, 1,5 milliard de chiffre d'affaires, avaient tous des tueurs à gages, évidemment. Donc au tout début des opérations, moi j'en suis resté en crochat, donc première opération franco-néerlandaise, SkyICC ensuite, avec les Anglais qui ont cassé des milliers de portes. Cet été, les polices européennes et la police anglaise avaient mis un guichet à l'aéroport parce que les criminels organisés, hein, les trafiquants, voulaient quitter l'Angleterre. Hein, tellement on était dans dans une traque assez efficace.
Le Droxit.
Donc là, évidemment, la réalité a dépassé la fiction de loin.
C'est fou.
On a trouvé un conteneur aux Pays-Bas qui était un conteneur pour les salles de torture. Ça, je ne sais pas si vous l'avez tous vu ou pas.
Ouais.
Mais ça n'a pas fait beaucoup de bruit parce qu'en France, les procédures étaient fragilisées par le droit actuel français. Mais aux Pays-Bas, en Belgique et en Angleterre, ils se sont pas embarrassés. Des infos qu'avaient récupérées les gendarmes français, ils sont aller chercher des centaines de trafiquants, puis pas des petits trafiquants.
Emmanuel Leclerc de la rédaction de France Inter, brillant grand reporter au service enquête et justice.
Courageux.
Merci beaucoup Emmanuel d'être venu à ce micro. Non mais c'est passionnant, c'est vrai.
On pourrait l'écouter des heures.
Pardon ? On pourrait
l'écouter des heures.
La preuve, on est en retard. Voici le héros du jour.
Oui.
Et mon héros du jour aurait dû être Elon Musk, vous savez, le milliardaire au visage de batracien. Car oui, figurez-vous que ce bon Elon vient de lancer son parfum, un parfum qu'il a appelé cheveux brûlés. Oui, apparemment, son parfum pue, et comme les gens sont des cons, dès le lancement, en quelques heures, il a vendu 10 000 bouteilles. Les gens me répugnent. Les gens ont des goûts de chiottes, j'en peux plus. J'attends avec la plus grande impatience la fin du monde pour ne plus être assimilé à cette corde de crétins que représente la population humaine. Du coup, et pour surligner la bêtise universelle, Elon aurait dû être mon héros. Mais il ne l'est pas, les amis. Non, il ne l'est pas. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce que quand on a un invité aussi prestigieux que celui que nous avons aujourd'hui, eh ben, on l'honore. Eh ouais.
Fayot.
Mes collègues, qui ne sont pas mes amis, sont d'accord avec moi. Ils l'ont fait. Olivier Marchal est le héros du jour. Déjà parce que, physiquement, il est remarquable. C'est l'homme qui, je crois, a l'air le plus fatigué au monde. Ça fait une dizaine d'années que je croise de temps en temps Olivier Marchal, et chaque année, j'ai l'impression qu'il en a pris 10. Aujourd'hui, il a le physique d'un centenaire, et pourtant, il est toujours là, toujours vaillant, toujours présent, à fond dans la promo. Dans la promo de ses films qui, personne ne peut dire le contraire, des films, tu l'as dit Nagui, ont une patte, ont une signature. Ouais. Un film d'Olivier Marchal, tu le reconnais tout de suite. Déjà, il y a l'ambiance du film. Niveau lumière, dans un film d'Olivier Marchal, on est sur une gamme de 4 couleurs de base. Le gris pour le ciel, le noir pour l'ambiance, le rouge pour le sang, évidemment le jaune pour le vomi. Après, pour le casting, il prend des gars et des filles, un peu à son image, hein, tous hyper fatigués, genre au bout du rouleau. Dans un film d'Olivier Marchal, t'entends jamais, il y a quelqu'un qui dit « Youpi !» Non, jamais, jamais. Là, il vient nous voir pour un film, et rien qu'au titre, bah t'es dans l'ambiance, hein, t'es dans le Marshall mood, hein. Overdose. Olivier Marchal, il a des personnages bien définis, hein. Voilà. Il y a 4 rôles chez Marchal. Flic, bandit, toxico et pute. Après, figurons. Et puis chez Marchal, ça envoie, ça défouraille, ça torture, ça saigne, ça sniffe. Hein. À côté d'un film d'Olivier Marchal, la guerre en Ukraine, c'est la Starac. Non mais, moi je commence à connaître l'artiste. Hein. Et je peux vous faire la promo de son prochain chef-d'œuvre. Hein. Aujourd'hui, l'invité, c'est Olivier Marchal. Olivier, bonjour. Vous venez nous voir pour la sortie de votre prochain film. Un film appelé Bavure. Faites-nous le pitch. Bah, c'est l'histoire de Bob, un flic alcoolique qui veut venger sa femme, Clarisse, une ancienne pute. Clarisse va la retrouver égorgée à la lime à ongles dans le zoo de Vincennes sur le rocher aux singes. Un soir, il débarque dans un hôtel et il bute tout le monde à la tronçonneuse. Le problème, c'est que ce soir-là, il était tellement bourré, bah, il s'est gouré. Hein, au lieu de débarquer dans l'hôtel, où sont les voyous, il a défoncé la porte d'un EHPAD. Après avoir recollé les morceaux de vieux, on compte 139 victimes. Victimes innocentes, bah, la fameuse bavure. Poursuivi par la police des polices, Bob va se planquer chez une vieille amie, une vieille pute, devenue toxico et qui couche avec un flic corrompu qui a perdu son nez après une soirée coke chez un célèbre animateur télé spécialiste karaoké et pyramide. Le flic corrompu reconnaît Bob, il lui coupe une jambe avec une machette, il y a du sang qui pisse partout, mais Bob, il arrive à s'enfuir à cloche-pied chez une amie couturière. Couturière, mais le week-end, elle fait pute. Bah maintenant, si vous voulez savoir la suite, je vous invite à voir le film. Ça s'appelle Bavure, c'est un film familial. Voilà, c'est pour tout ce talent, tout cet entrain, toute cette joie de vivre transmise au cinéma français que j'ai choisi comme héros du jour. Évidemment, le très jovial Olivier Marchal. Oh, merci.
Tanguy Bastureau, bonjour Tanguy. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler de la vague de chaleur et de Daniel Morin. Aucun rapport, évidemment.
Ça sera pour les infos politiques. Bonjour. Vous avez dit Ayoub Marceau, Alexandre. Dis bonjour un peu à la dame.
Oui,
ah bah voilà. Alexandre Cominec.
Bonjour.
Daniel Morin.
Bonjour
Guy Pastureau. Bonjour. Et notre invité Olivier Marchal.
Olivier. Ouais.
Avec Overdose à partir du vendredi 4 novembre.
Je m'y habitue jamais.
Hein. Sur Amazon Prime. On peut dire que c'est un film
familial,
extrêmement violent. Il y a quand même des scènes qui sont dures.
Oui, mais après, j'ai des scènes où j'ai suggéré aussi la violence. Enfin, la scène de torture à la fin, tout ça.
La première scène donne le logo Overdose, et qui est une scène de torture et un assassinat. On sursaute, quoi.
Met dans le ton.
On se dit, il va couper avant que le mec se fasse couper. Non. Vous êtes allé au bout.
Non, c'est pas rigolo autrement. Non, je suis allé au bout parce qu'il faut l'assumer. Après,
c'est dans les codes du film de genre, quoi.
Oui, puis c'est de toute façon, Emmanuel nous l'a dit tout à l'heure, c'est un monde ultra violent, le monde des narcos. Quoi.
C'est sans limite.
Quand vous voyez la série Narcos, je suis quand même. Je pense être en dessous.
On se dit c'est une série, on se dit tout ça c'est de la fiction, c'est du spectacle, mais on a l'impression qu'on est en dessous de la réalité.
En tout cas, oui, moi, j'ai des potes qui sont flics à Marseille et tout, Christophe, notamment Gava, qui écrit et tout, qui me dit que la violence qu'on a mise dans le film, elle est en dessous de ce qui se passe, ce à quoi ils ont affaire, eux, aujourd'hui, quoi. C'est des mecs qui se découpent, qui se mutilent, qui sont sur le marché de la CAM, c'est d'une violence inouïe, quoi.
Mais il y avait un type pour la série Narcos qui avait été en repérage pour la série, qui avait été sur place en Amérique du Sud, et il s'est approché trop près de certains camps. On l'a retrouvé crivelé de balles. Il ne pose pas de questions.
Ah ouais,
alors que c'était juste un assistant metteur en scène.
Il est venu pour faire un repérage. Où est-ce qu'on peut s'installer? Les gars l'ont vu passer, ils n'ont pas posé de questions. Mais crivelé de balles.
D'accord. Overdose, en tout cas, il donne la chair de poule, il fait peur, il fait aussi réfléchir un tout petit peu sur où va notre société aussi, parce que tout ça, on est dans des enjeux qui sont...
Est-ce que ça vous interroge de continuer à faire des films sur ces milieux-là, quand on voit que ça déclenche une telle violence?
C'est ça.
Parce que c'est pas le banditisme d'antan.
Maintenant ça n'existe plus tout ça. Donc les voyous à l'ancienne.
Est-ce que ça fascine toujours autant
en tout cas ça intrigue, je pense. Il y a rien de fascinatoire chez ces gens-là, évidemment.
Si, la fascination, c'est l'argent.
L'ultra-violence fascine, évidemment.
Non, mais c'est surtout l'argent facile. C'est d'avoir le luxe ostentatoire, les très belles voitures, de très belles femmes, qualifiées tout à l'heure par Daniel Morin. Et... Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que l'argent, d'un coup, c'est un passe-droit.
Ce qui est fascinant, c'est comment... parce que moi, je prends pas une seule journée de leur vie, moi, ces mecs-là. C'est quand on voit justement la vie de Pablo Escobar qui a fini tout seul, gras comme un cochon, tout seul avec son lieutenant dans un boui-boui. Enfin, quand on voit le Totorina qui vivait dans une bergerie au fond du
cave. Olivier, j'ai peur que ça fasse rêver d'autres gens. J'ai peur. Vous dites, je prends pas une seule journée de leur vie.
C'est trop dangereux. On a tout le temps le calibre sur la tête.
C'est même pas une question de. Compliqué. Je sais même pas dans la proportion entre le danger et la facilité, entre guillemets, à être, comme a dit Emmanuel tout à l'heure, milliardaire sans aucun autre d'autre mérite que d'être méchant et de trafiquer de la drogue, bah, c'est une solution comme une autre. Le pourquoi pas moi peut venir assez vite.
Non, mais quand ça,
on a entendu que Dubaï était une espèce de plaque tournante maintenant, parce que l'argent s'y trouvait, parce que des décérébrés allaient là-bas pour ne pas payer d'impôts et profiter de la situation et du climat et de tout ce qui se passe. Voilà.
Non, mais après, moi, dans mon film, ce qui m'a intéressé, c'est aussi l'investissement des flics. C'est le travail des flics par rapport à tout ça. On est quand même, même si on est beaucoup avec les narcos, on est quand même beaucoup dans le travail de police et puis dans ces solitudes de flics qui sont investis, qui n'ont plus de vie de famille et qui
ne lâchent
rien. C'est ça qui me touche, quoi,
qui ont une déontologie et une forme d'éthique, absolument. Oui. Et c'est ce qui est fort aussi dans Overdose. On parle encore une fois de toute l'intrigue, du suspense autour des voyous, mais il y a aussi j'ai envie de dire presque l'amour propre, la fierté d'aller au bout du boulot et de la mission qu'ils ont au péril de leur vie. Faut pas l'oublier non plus.
Overdose. En tout cas, si vous êtes fan du cinéma d'Olivier Marshall, enfin, vous serez pas déçu. Fans d'Olivier Marshall, c'est vraiment, c'est signé Olivier Marshall et on reconnaît vraiment et on se régale.
Mais c'est gentil, merci.
Moi, oui. On continue d'en parler jusqu'à midi et demi. Voici Tanguy Pastureau.
Dimanche dernier, j'ai passé la journée avec Daniel Morin. Alors, rien d'intime, Daniel et moi sommes des mâles blancs hétéros cisgenres, les derniers. On sera d'ailleurs présentés en vitrine au Musée de l'Homme à partir du 27. Non, Daniel, je le vois juste à la radio. Il a toujours refusé de m'inviter dans la villa qui s'est payée avec les droits d'auteur de ses chroniques depuis 1984. 40 pièces, 12 jacuzzi. Il y fait travailler 20 sans-papiers dont il a confisqué les passeports. Il les rémunère en bout de fromage, sa grande passion. Mais Daniel, professionnellement, a une double vie. Il est ici à la radio où il jongle avec trois fonds sonores depuis 15 ans. Le mec qui a composé la musique de la Puberta pour les Knackis, grâce à lui, à la SACEM, touche plus que Jean-Jacques Goldman. Il est aussi doublure barbe d'Olivier Marshall ou Yolande Moreau dans les films et animateur de la tournée des humoristes France Inter, dont le concept est de réunir sur scène des gens qui espèrent que les autres vont se planter afin de briller eux. Exemple, dimanche, j'avais mis des laxatifs dans le verre des autres, ils étaient liquides. Mais comme on jouait dans le Nord à Hasbrook, le public s'est juste dit, tiens, voilà des artistes qui sont comme nous. Hein, ça revient à aller jouer à Brest ivre ou à Cannes avec un t-shirt Fuck Me, I'm Eric Ciotti. Donc moi, à Hasbrook, je m'étais préparé, j'avais pris un plaid en polaire, un bâton taillé en pointe pour combattre les ours blancs, des capotes à lancer dans la foule parce que là-bas le taux de fertilité est le même que celui de l'Albanie en 52, et un réchaud pour survivre parce que je me disais il va faire plus froid là-haut que dans le regard de Martine Aubry. Eh ben tu parles, il faisait 21 le 16 octobre dans le Nord, ils ont le climat de la Provence il y a 25 ans, vous savez comment ils appellent Patrick Bosseau ? L'enfant du pays. Bernard Lavilliers, quand il est à Hasbrook, il dit je suis à la Casa, et il se met à jouer reggae avec les Rastas du coin qui se sont implantés là parce qu'il fait plus doux qu'à Kingston. Ils se sont adaptés, hein, en concert, ils font Ja Rasta Marwal. Non mais avant le Nord c'était Game of Thrones. Le 2 octobre, il y avait de la neige qui arrivait avec des renards polaires et Lynn Renaud en doudoune qui disait bordel, on skate sa mère, pourquoi suis-je pas né dans le Vaucluse. Et là il fait 21, fin octobre, j'ai regardé Daniel, des gouttes de sueur perlaient de sa moustache. On aurait dit Pirates des Caraïbes s'ils avaient remplacé Johnny Depp par un acteur non professionnel de film de Bruno Dumont. Donc je me suis dit, Tanguy Bichon, il se passe un truc pas net. Je me retourne vers Daniel qui est étendu à terre en pleine bouffée de chaleur à cause des températures et de son andropause et me dit j'appelle Marie-Pierre Planchon, la madame météo d'Inter. Marie-Pierre décroche, dit à Daniel je fuis. Daniel répond moi aussi je fuis, c'est dû à notre âge. Elle dit non, je fuis vers le nord. Là je suis en Islande, il fait 17, c'était ça où renoncer à mettre ce petit pull qui était à 39€ chez Uniqlo. Je vérifie sur mon appli météo, Reykjavik en effet 17 degrés. Puis par curiosité, je regarde Bordeaux, je lis mardi, mercredi 30. J'éteins et je rallume mon iPhone en me disant « Elle a encore bugué le bitonio !» Ça reste sur 30. Et là, je vois une tonne de notifications s'afficher. Je lis « Mort de Prince ». Je me dis « Encore ?» En fait, c'était d'anciennes notifications qui étaient restées bloquées. « Harvey Weinstein, une belle personne à Hollywood ». Je me dis « Ah ouais, très ancienne notification quand même hein, !» Mitterrand VGE, qui remportera le débat de l'entre-deux-tours ? Bon. Mais il y a aussi des articles récents sur la vague de chaleur qu'on vit en ce moment. Parce qu'on en est là à se taper des vagues de chaleur en automne. Ce qui veut dire que son summer body, il faut le conserver 2 mois de plus, fini la raclette épinard. Pour avoir un automne body, plus ensuite un winter body, parce que la vague de chaleur du mois de décembre, elle nous pend au nez, il va falloir épiler les rennes à la cire chaude. Les bestiaux ressembleront tellement aux influenceuses un peu salopes qu'on nous voit à longueur d'Instagram que Magali Berda va ouvrir un refuge animalier. Donc je suis allé sur Facebook voir les commentaires. Alors, univers parallèle Facebook, 80% des gens sous les articles consacrés à la vague de chaleur écrivent « Oui, c'est l'été indien hein, ». Les mêmes qui en juin, quand il faisait 45 et l'expression « aller se faire cuire le cul » était devenue réalité, écrivaient « Oui, c'est l'été ». Mais enfin, l'été indien, Ok, mais que disait Joe Dassin ? Jojo, qu'est-ce qu'il dit Jojo ? Hein, il a dit que c'était l'automne, un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Oui. Et est-ce qu'on est en Amérique ? Non. Sinon, dans ce studio depuis 1h15, il y aurait déjà eu 2 à 3 décès par balle. Hein, comme à Miami, ou Détroit, ou Nantes, les States, quoi. Et puis, pardon, mais moi j'aimais bien l'automne, les premiers frimas, les gros seins qui pointent sous les pulls. Oui, j'intègre le musée de l'homme le 27. Hein. Et l'hiver ! Mais j'adorais l'hiver ! La neige, l'absence de luminosité, les gens livides, le fait que chaque invité ici, on avait l'impression que c'était Mylène Farmer en manque de glucose. Puis la personne disait, ce film, c'est avant tout l'histoire d'une bande de potes. Et on s'exclamait, ah ben non, c'est Philippe Lachaud. Hein, Lachaud, bah tu m'étonnes. Il fait 30. Voilà, ne me jugez pas, ça aurait été trop bête de pas la tenter. C'est peut-être la fin du monde très bientôt. Donc je vous préviens que je risque de tout lâcher. Hein, si en février il fait 27, la chronique, ce sera 3 blagues de Toto, une vanne sur Daniel, prononcée alors que je serai roulé en boule en attendant l'apocalypse. Daniel, avec qui j'ai passé un bon dimanche à Hasbrook, on a pris le soleil, on a passé une tête à la compète de beach volley sur la Grand Place, qui était sponsorisée par Clim Nord, hein, les climatiseurs du Nord. Céline Renaud qui fait la pub, elle s'est aussi acheté une baignoire à porte qui fait machine à glaçons pour arriver à passer l'hiver parce qu'il fait trop chaud. Mais enfin, si ça se trouve, hein, c'est juste l'été indien. D'ailleurs, dimanche, Daniel, avec sa robe longue, ressemblait à une aquarelle de Marie-Laurence. Mais bon, ce qui se passe dans les loges, reste dans les loges.
Merci Jean-Yves Pastureau.
Tanguy Pastureau qui aime tellement la région que vendredi prochain il sera dans le Pas-de-Calais à Ferc.
Ah bah ils vont t'accueillir, tu vois. On va continuer de parler évidemment de cette sortie de Overdose sur Amazon Prime. Ça sera le vendredi 4 novembre, signé Olivier Marchal. Est-ce que ça change beaucoup d'ailleurs pour vous que ce soit sur Amazon Prime et pas un film entre guillemets au cinéma ? Est-ce que d'abord, ça vous vexe qu'on dise un film de cinéma et un film d'Amazon ?
Non, pas du tout, non. Nous, on l'a fait dans des conditions cinéma, hein. On a tourné en scope anamorphique, on l'a fait comme on l'aurait fait pour la salle. Après, maintenant, les gens, on part du principe qu'ils ont quand même la plupart des grands écrans. Alors, ça reste évidemment pas le cinéma, mais nous, ça nous permet de continuer à faire notre travail, les plateformes. Mmh. C'est vrai que...
Ce film n'aurait pas pu sortir au cinéma ? Gaumont
Franchement, le budget est de 12 millions d'euros, donc un budget à 12 millions pour un polar au cinéma. Alors, je sais pas, il y a le film de Cédric Jiménez, Novembre, qui marche très bien, et tant mieux pour le cinéma français.
Ouais.
Moi, j'ai travaillé avec Netflix, avec Amazon. On travaille encore une fois comme au cinéma. On ne fait pas la différence. Mais il y a une visibilité quand même. Ouais, Bronx, ça a été vu par 78 millions de personnes dans le monde, 12 millions et demi en France. On ne fait pas des chiffres comme ça au cinéma.
Mais il paraît qu'à partir du moment où un réalisateur travaille pour une plateforme, l'œuvre n'est plus à lui.
Non, elle leur appartient. Après, nous, on touche des droits d'auteur quand même. C'est ce qui n'existait pas avant, qui maintenant est le cas. Donc. C'est quand même bien.
Alors, quand vous la sortez au cinéma, l'œuvre continue à vous appartenir ?
Oui. Après, on est intéressé au prorata d'entrée.
Ça forme un catalogue pour le réalisateur comme pour les producteurs, pour la Gaumont. Voilà.
Là, ce qui est plus le cas. À chaque diffusion
chaque
et tout
diffusion,
ça.
Ouais.
Maintenant, ça devient le catalogue d'Amazon et plus le catalogue de Gaumont de Olivier Marchal.
C'est pas très gênant, franchement.
Non, mais enfin, c'est le choix entre est-ce que ça doit se faire ou pas. Mais.
Tout c'est que les films existent. Après, moi, j'ai l'âge que j'ai. Maintenant, j'ai été au bout. Hein. Donc, j'ai encore deux, trois petits galipettes à faire encore. Mais je suis plus proche de l'EHPAD, comme Daniel, que du bac à sable. Hein.
Je dis plus rien.
Franchement, si vous partagez une chambre, ça peut être drôle.
Hein. Oui, mais je pense.
Pas pour les voisins. D'autres événements culturels.
On vient d'apprendre que Mel Gibson avait refusé un rôle mythique fou dans les années 80. On lui a proposé un rôle.
Jacob.
C'est un héros récurrent d'une grande franchise.
Zorro.
Batman.
Milo.
Non.
Tintin, donc.
Non.
Un héros récurrent.
Un héros incroyable.
Indiana Jones.
Il y a eu beaucoup d'acteurs qui l'ont incarné.
James Bond.
Absolument. On lui a proposé d'être James Bond.
Mais il est tout petit.
Il a refusé.
Il a le physique quand même.
En tout cas, c'était dans les années 80 qu'on lui a proposé. Pas dans les années 80, c'était il y a quoi ? Il y a 25 ans, 30 ans.
Non, mais il n'a pas le côté british.
Après, il y a plein de... Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, je le vois trop.
Mais il n'est pas élégant dans Braveheart.
Ça dépend comment on peut l'arranger un peu pour...
Non,
on ne veut pas. Non. Est-ce qu'il y a des héros mythiques comme ça qui vous
Jean
ont
Dujardin,
marqué
Jean Dujardin, c'est un super James Bond, Jean Dujardin. en James Bond.
Un OSS 117, très bien, mais James Bond, je ne sais pas. Je ne sais pas si on y croirait après coup.
Il va faire Zorro, en tout cas.
C'est vrai. Olivier Marchal, est-ce qu'il y a des héros mythiques de votre enfance? Est-ce qu'il y a des héros comme ça? Je ne sais pas, un James Bond qui fait que vous allez voir forcément en salle?
L'Amiré Corée, par exemple.
Non, moi, j'adorais Sean Connery, oui, bien évidemment. Moi, c'est tout mon dieu. Hein. Et j'ai tourné dans la maison de Sean Connery. Les Lyonnais, la scène finale, on a tourné dans sa maison.
D'accord.
Et donc, tout le monde allait dans les toilettes pour faire pipi dans les chiottes de James Bond. Quoi. Donc, ça, on s'est éclaté. Tout le monde y est allé. On s'est filmé et tout ça.
Je pisse chez James Bond.
Et est-ce que finalement, dans les James Bond, les plus intéressants, c'est pas forcément les méchants? Parce que quand j'ai vu Overdose, quand j'ai vu Alberto Amann, je trouve que c'est un super méchant.
Ah ouais. Mais dans la vie, je vous assure que vous lui mettez un cartable dans le dos, il rentre en CM2. Hein. C'est un mec, il est on dirait un tout petit garçon. Il est gentil. C'est un amour.
Autre question. Si je vous dis l'informé, je parle de quoi?
Un journal?
Absolument. Journal de quoi?
Un journal de gauche.
De gauche, non.
Un journal de papier.
Un journal, non, ça, il sera en ligne, internet. C'est un site internet. Mais de quoi va-t-il parler?
D'amour.
Non, pas d'amour.
Peut-être que ça sera un journal uniquement réservé aux indiques.
Non, pas scoop. Aux indiques.
Avec des scoops un peu.
Alors, ça pourra donner lieu sans doute à des informations qui pourront vous donner envie d'écrire des scénarios. Non, c'est plus global.
Que des faits divers.
Et ça manque en fait, ça manque vraiment.
Que des chiens écrasés.
Non.
Non, ça manque. Là, oui, non,
c'est vraiment ça manque. Le truc du magazine.
Ah, ça manque.
Que des secrets d'État quoi, dévoilés ou des
pas
choses comme
secret
ça.
Secrets d'État, mais une matière intéressante, je vais vous le donner. Ça sera uniquement sur de l'économie, des infos exclusives dans la sphère économique. Oh, ouais. Si. Ça sera un peu. Ouais. Ça se présente comme le Mediapart de l'économie.
Non, on attendait un truc sur le un peu le sexe.
Non, je suis désolée. Non, mais il y a autre chose que le sexe. Il y a autre chose que le sexe.
Il y a la drogue. Il y a le rock and roll, madame.
Bien sûr.
Il y a l'économie. Oui, attends, je l'ai, évidemment, il est là.
Voilà. Là, ça sera sur des investigations dans la sphère économique, des scandales, tout ce qui peut être une véritable mine d'or pour écrire un scénario, puisque forcément, c'est des histoires de gros sous, c'est des histoires de tractation, ça peut être lié à des histoires de trafic. C'est toujours une matière intéressante. Vous partez souvent de romans, Olivier, que vous adaptez, de votre connaissance du terrain. Est-ce que la dimension économique aussi pourrait être, je sais pas, un début de.
Est-ce que les voyous, autrement dit, la question, c'est est-ce que les voyous peuvent être chez les riches et pas chez les dealers?
Bah, les voyous sont partout.
Ils sont partout. Oui, après, j'ai peur de pas avoir les compétences.
Mais même aider, entourer.
Oui, bah, j'avais fait Carbone, mais bon, voilà, qui parlait de ça, mais c'était écrit, coécrit avec un des types qui la connaissait, encore, qui connaissait la bande.
Ouais.
Mais on a pris des libertés, en plus, de grandes libertés.
Et c'était plus compliqué à monter Carbone que les autres?
Non, mais c'est-à-dire que c'est tellement compliqué, cette embrouille, que c'était compliqué de. Si on vraiment, dans le détail, on allait être chiant, parce que c'est vraiment. Moi, j'ai toujours pas compris, hein, donc, l'histoire. Donc, mais
de
moi,
détourner de l'argent pour
j'ai compris
pour
qu'ils vendaient du vent, quoi. Ça j'ai compris le principe, mais comment ils ont fait,
c'est
très malin quoi. Puis il faut
quand comme même, souvent les arnaques.
Oui tout à fait.
Mais c'est vrai que les arnaques, il n'y a pas non plus de course-poursuite, il n'y a pas
non.
De.
Moi, je préfère être dans le grand banditisme, je préfère être dans le.
C'est d'analyse de salon d'hôtel et de discussion entre gens qui pensent être chaque fois plus intelligents que celui à qui ils parlent.
C'est un autre genre, encore. C'est un autre genre de réalisation.
Ouais.
Pour en revenir sur Overdose, la place de la femme, d'un côté, il y a l'excès, c'est-à-dire elle est femme objet réduite à la prostitution. De l'autre côté, elle est l'enquêtrice et la tête pensante qui résout, c'est vrai, le regard, c'est l'un des sujets aussi, la place de la femme et au cinéma et dans notre société, et le cinéma doit être le reflet de sa place.
Oui, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a aussi des consignes, c'est-à-dire sur la mixité, sur les rôles féminins forts, sur. Donc, je trouve ça super, moi. C'est, encore une fois, ça rejoint ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que moi, vous savez, on m'a reproché à un moment donné dans mes films, j'avais une critique qui m'avait blessé, on m'avait encore un casting chrétien d'Olivier Marchal. Ah. Alors, j'ai pas compris, quoi. Et c'est vrai qu'à mon époque, dans mon inconscient, nous, il y avait, à l'école de police, il y avait un maghrébin, on était sur 600, et un flic d'origine franco-africaine. Ils étaient deux sur 600. Maintenant, aujourd'hui, c'est vrai, vous allez à l'école de police, vous voyez les types de la BAC et tout, bah, ils sont comme...
comme notre comme société. Hein? Comme notre société.
Ouais, exactement. Mmh. Et donc, ils sont tatoués, ils ont des putains de looks, ils sont... Et c'est vrai que...
Ils doivent se fondre dans la société aussi, ouais, pour pas se faire repérer en tant que flic.
Oui, et je sais que pour eux, ils doivent être exemplaires. C'est ça qu'avec Sophia, on en a parlé, ça. Comme elle est, c'est un personnage d'origine maghrébine, il faut qu'elle soit encore mieux que les autres. Et je trouvais vachement intéressant. Mon nom s'adore. Moi, j'adore cette fille. C'est une magnifique actrice, en plus.
Formidable.
Et un être délicieux, vous l'avez reçu.
Est-ce qu'il y a un personnage en plus dans vos films qui intervient au fur et à mesure que la technologie évolue? C'est tout ce qui est numérique, tout ce qui est repérage, carte à puce, ouais, le GPS, la traçabilité, ouais, les failles dont parlait tout à l'heure Emmanuel dans les réseaux aussi, entre les échanges, ouais, qui est une source d'information pour la police maintenant?
Oui, bien sûr. Bah, beaucoup, voilà. Mais non, les planques à papa et tout ça, là, c'est un peu terminé. Mais ils fonctionnent avec les traceurs, avec les portables. L'ennemi du voyou, c'est le portable, hein, même s'ils en changent. Et, ouais,
c'est pour ça qu'il y a un truc très mignon. Je veux pas spoiler ce qu'il y a dans le film, mais il y a une information qui est plus une information à la mamie qu'à la numérique et à la et à la modernité.
Oui, voilà. Parce que ça existe quand même encore un peu, quoi. C'est l'humain qui, c'est grâce à l'humain qu'on y arrive.
Qui fait que tout bascule. Ouais. Ouais. Dans vos projets, être acteur continue d'être dans votre passion et votre vie, entre guillemets, quotidienne, pas uniquement réalisateur. Vous serez à l'affiche de Pour l'honneur.
Oui, de Philippe Guillard, oui.
C'est une comédie?
Oui, c'est une comédie, c'est une très belle histoire. Ouais, c'est encore le monde du rugby, hein, Philippe étant un ancien international de rugby. Ouais. Il avait fait le fils à Joe avec moi, et Gérard Lanvin et moi, plutôt, pardon. Et là, c'est un petit village, c'est une guerre de village, c'est deux équipes de rugby qui peuvent pas se... C'est un peu Don Camillo et Bonne, quoi.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Bien sûr, j'attends. Désolé pour nos auditeurs un peu tradis, hein, qui ont été choqués par l'apologie de la drogue et de tous les excitants. Une apologie faite par Leïla, Nagui, Olivier Marchal, Leïla, Alexandre Cominette, Leïla, enfin bref. L'apologie de la prostitution festive faite par moi-même, l'apologie de la haine du monde et de moi que l'on doit à Tanguy. Finalement, il n'y a que Ayoub de Clean. Ayoub Clean. Bizarre cette phrase. Désolé pour Mathieu Madénian, Jérémy Crédville, Tanguy Pastureau, bref, tous les humoristes de province qui ont une carrière régionale, mais respectable. Non, Nagui, je n'aurai jamais de mépris pour nos régions, n'insistez pas, je ne dirai pas un mot sur la laideur des gens, pas une vanne sur l'absence de culture de ces régions, quoi, sinistré, vous exagérez. Moi, j'aime la différence. France, tu es ma passion. Désolé enfin pour les plateformes concurrentes d'Amazon, non citées par Nagui, à savoir Netflix, Disney Channel ou encore Saltoto. Voilà, l'erreur est corrigée. Vivement demain avec Isabelle Gélipan et Bernard Campas.
Toby Hopple TV. Oui, Isabelle Gélinas et Bernard Campan seront nos invités demain. Merci beaucoup, Olivier Marchal.
Merci à vous, comme d'habitude.
Et bravo.
Merci
pour
de revenir à chaque fois.
Overdose sur Amazon Prime.
C'est toujours un plaisir.
À partir de vendredi 4 novembre prochain. Thank you.